de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, est toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes au chapitre 12 de ce livre. Ce chapitre est intitulé « Psychologie politique ». La dernière fois, nous avons analysé l'hétéronomie, la notion d'hétéronomie, c'est-à-dire le fait que l'homme voit justement ses actions gouvernées par une instance extérieure à lui, hein. Et nous avions analysé alors dans la problématique religieuse l'idée du péché originel, par exemple, que nous devons à saint Augustin. Il est vrai que l'augustinisme a chez nous conduit à une pédagogie de la peur, à une anthropologie de la culpabilité que l'on voit d'ailleurs au début de chaque messe catholique. Je parle du catholicisme romain, hein. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, vous voyez, reconnaissons que nous sommes pécheurs, hein. Ou bien Seigneur, prends pitié, hein. Prends pitié, Kyrie eleison, formule grecque, hein. Attention, c'est pas parce qu'on entend le Kyrie eleison à la messe qu'on entend du latin, hein. On entend du grec, voilà. Donc cette anthropologie de la culpabilité est responsable sûrement de l'actuelle déchristianisation. Je pense aux travaux de Jean Delumeau sur le péché et la peur en Occident, hein. Donc cette culpabilisation chrétienne, elle a été longtemps orchestrée par l'Église de Rome. Voyez la tâche originelle qui figure dans le fameux Minuit chrétien, hein. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux, hein. Donc la tâche originelle, c'est ce péché originel que nous devons à Augustin pour qui l'humanité était une massa damnata, une masse entière de condamnés. Donc ce courroux du Père s'explique par justement ce péché originel. Bon, je crois que ce minuit chrétien a été supprimé maintenant, hein, de la liturgie. C'était à Noël, hein, qu'on le chantait dans la soirée de Noël, hein. Il a été supprimé et c'est une bonne chose. Mais enfin, l'augustinisme, alors nous allons changer de domaine et pourtant nous sommes dans le même domaine, une anthropologie de la dépendance, hein. L'augustinisme sous-tend toute notre vision du droit. Alors vous allez dire, rapport entre le droit, le monde juridique et ses notions théologiques. Eh bien, je crois qu'il y a une différence essentielle dans la conception du droit entre les pays latins ou méridionaux d'influence catholique romaine et les pays réformés ou septentrionaux. Le droit américain, par exemple, procède en pratique d'une vision optimiste, ou je dirais pélagienne. Rappelez-vous ce que nous avons dit lors de la dernière émission, l'ennemi d'Augustin, c'était Pélage. Pélage faisait crédit à l'homme, à son action, hein, alors que Augustin ne lui faisait pas crédit. Donc, le protestantisme américain, par exemple, que l'on voit à l'origine de son droit, de son système juridique, est un dynamisme, un optimisme. Alors j'avais dit lors de la dernière émission qu'il faut bien distinguer les pères fondateurs de la réforme, Luther et Calvin, chez qui il y a une vision de la prédestination qui peut être décourageante pour l'homme, et puis ce que le protestantisme moderne ensuite en a fait, hein. Pour savoir si nous sommes élus par Dieu, on ne sait pas, hein. On ne sait pas si nous sommes prédestinés à l'élection ou à la damnation. Alors pour le savoir, eh bien, il faut agir. Et le résultat de notre action montrera si Dieu nous favorise ou pas. Donc agissons. Alors paradoxalement, ce qui pouvait amener à une paralysie, la prédestination, a amené à un dynamisme, puisque Dieu est censé, en vertu de la théorie de la rétribution, récompenser ceux qui trouvent grâce à ses yeux et punir les autres. Donc pour le savoir, hein, pour savoir si je suis élu de Dieu, je dois agir. Alors revenons au droit américain, je dirais qu'il procède de cette vision pélagienne ou optimiste de l'homme, puisqu'il valorise la seule liberté de l'individu. Par exemple, quand il s'agit de contracter, de faire des contrats, hein, tout est susceptible aux États-Unis de faire l'objet d'un contrat. À l'inverse, le droit français procède d'une vision pessimiste, ou je dirais augustinienne, de l'individu, qui est censé être démuni lorsqu'il est livré à lui-même. On présuppose dans le droit français toujours que l'individu n'est pas naturellement porté au bien, qu'il y a par conséquent nécessité d'entraver la liberté individuelle au profit du bien commun, de l'ordre social ou de l'ordre public. Par exemple, on ne peut tester comme on veut en France, on ne peut pas faire tous les testaments qu'on veut. On ne peut, chez nous, déshériter son enfant. Hein. Il y a une part réservataire de l'enfant ou des enfants sur lequel il ne faut pas toucher. Hein. Bon, alors par exemple, on parle à propos d'un procès qui oppose actuellement les enfants d'un célèbre chanteur rock à la femme de ce chanteur. Ce chanteur rock avait donc déshérité ses enfants par un testament fait en Californie, aux États-Unis, hein, et là il avait le droit de léguer toute sa fortune et ses droits d'auteur à sa femme, et il avait le droit justement de négliger ses enfants. Eh bien, le procès qui se passe actuellement montre bien l'opposition entre les deux visions du droit, hein. Le droit américain où l'on peut faire ce que l'on veut, déshériter ses enfants si l'on veut, et le droit français où on n'a pas le droit de le faire. Il y a aussi chez nous des règles, je dirais, de bioéthique qui font que on ne peut pas disposer juridiquement de façon complètement libre de son corps, de ses organes. Il est interdit chez nous de vendre son corps, son sang, ses organes. Chez nous, on donne son sang, mais il y a des pays, malheureusement, où on le vend et où on vend aussi ses organes. Et c'est même pour certains êtres pauvres un tragique moyen de subsistance. Ce principe de l'indisponibilité du corps a été allégué chez nous par la Cour de cassation, qui en France a déclaré illégale la pratique des mères porteuses, ce qu'on appelle aujourd'hui la GPA, hein, la gestation pour autrui. On n'a pas le droit chez nous, jusqu'à présent, de porter un enfant pour une autre femme contre rémunération. Et en effet, on voit les effets pervers possibles de cette pratique des mères porteuses. Ce pourrait être une solution de confort pour certaines femmes qui voudraient bien avoir un enfant, mais qui voudraient aussi s'épargner les inconvénients de la grossesse. Alors, et en même temps, la symbolique tout entière de la maternité disparaîtrait. Elle est résumée dans la fameuse expression « la chair de ma chair » ou « le fruit de mes entrailles ». Vous voyez ? Donc, on ne peut pas tout faire chez nous. Voilà, on ne peut pas tout faire. Je pense à un autre exemple. Supposons quelqu'un qui voudrait se suicider, mais qui n'aurait pas le courage de le faire. Et alors, il déciderait de se faire tuer par quelqu'un d'autre, vu son propre manque de courage. Alors, il pourrait lui faire une lettre de décharge, mais est-ce que cette lettre de décharge exonérerait celui qui est chargé de cette mission de la responsabilité de son acte? C'est un sujet qui se trouve dans le film de Bresson, Le Diable probablement, hein, où le jeune homme justement paie quelqu'un pour qu'il le tue, pour être tué par lui en quelque sorte, et c'était une pratique tout à fait en usage chez les anciens, hein, à Rome, quand quelqu'un recevait de l'empereur la notification qu'il devait mourir, eh bien, n'ayant pas le courage de se tuer, il pouvait dire à un esclave, eh bien, voilà, transperce-moi de mon épée, et ainsi je serai mort, je mourrai, voilà. Alors, le problème que je pose, c'est, est-ce qu'une lettre de décharge pourrait exonérer celui qui accomplit cet acte de sa responsabilité? Je n'en sais rien. Hein. Mais enfin, voilà, chez nous, le droit présuppose que nous ne sommes pas toujours en position de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon de faire. Alors le danger de la position latine, celle de la nôtre, hein, c'est l'infantilisation possible de l'homme, hein, et c'est l'asservissement de l'individu à des instances qui le dominent, au pouvoir tutélaire, à celui de l'État par exemple, hein, ou bien au pouvoir religieux. Je pense aux interventions du pape sur des questions de théologie morale, sur la contraception, sur l'avortement, etc. Bon, il s'agit de diriger, pour l'Église catholique romaine, l'âme et la personne des fidèles. Et à l'inverse, la position protestante, position états-unienne par exemple, propose de l'homme une conception contractuelle, individuelle et responsable. Donc là, il y a une autonomie de chacun, il y a participation de chacun à ses propres affaires, prise en main constante de soi par soi. Et ça, cela semble plus digne. Mais encore, je suis toujours perplexe parce que les choses ne sont pas aussi simples. En effet, si je reprends l'exemple de la vente du sang ou des organes, eh bien on voit très bien que le mercantilisme et la fameuse loi du marché vont se profiler derrière la liberté individuelle. Cela revient au règne du plus fort économiquement, qui va dominer le plus faible. C'est ce que disait Peggy, le règne inexpiable de l'argent. Formule de Peggy, de Charles Peggy, hein, qui caractérise l'époque moderne. Alors, je pense qu'il y a peut-être nécessité parfois de borner ou de limiter la soi-disant liberté individuelle par des contraintes imposées de l'extérieur, par une certaine hétéronomie, quand les hommes ne sont pas assez raisonnables pour unir autonomie et dignité. Le problème du libéralisme, à cet égard, c'est qu'il va restaurer la loi de la jungle ou le droit du plus fort. Le modèle de la jungle va succéder à celui de la fourmilière. La fourmilière, c'est une métaphore de l'homme encadré et dirigé par un pouvoir tout-puissant. La liberté totale, a-t-on dit, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Et le rôle de la loi, qui est imposée autoritairement à l'occasion à ceux qui n'ont pas assez de force ou qui n'ont pas assez d'intelligence pour en voir la justification, donc ce règne de la loi, c'est précisément de compenser la liberté naturelle et éventuellement l'irréflexion de certains comportements. Vous voyez ce que disait Lacordaire, c'est une phrase que l'on cite toujours, hein, « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » Donc je crois qu'il y a des cas où l'homme a besoin d'être protégé contre lui-même. Apparemment, les États-Unis d'Amérique ne croient pas au péché originel. Hein. Là, c'est l'essentiel de leur idéologie. Mais il me semble qu'il faut parfois une lucidité minimale. Il y a des cas où les hommes doivent être contraints, car les hommes peuvent être fous, et ils sont parfois fous. Donc je pense qu'il faut se méfier de l'angélisme, ici comme ailleurs. Hein. Je dirais que même le consentement ne suffit pas à absoudre un acte. Par exemple, il y a un axiome juridique que l'on cite toujours en latin, « volenti non fit injuria », c'est-à-dire « envers qui consent, volenti, non fit injuria, il n'y a pas d'injustice ». Eh bien, je dirais que cet axiome ne vaut chez nous que pour les majeurs, c'est-à-dire ceux dont on pense qu'ils ont assez de maturité pour réfléchir à ce qu'ils font. Par exemple, on ne peut pas se prévaloir du consentement d'un mineur pour justifier de tout type de comportement avec lui. Que dirait-on d'un pédophile qui se targuerait du consentement de ses partenaires? Parce que ce partenaire pourra accepter cela à tel âge, et plus tard il ne l'acceptera plus. Donc la possibilité d'une liberté inconditionnelle ou d'une autonomie sans bornes, dont certains font crédit à tous les individus, il me semble que c'est un leurre. Pour toujours à propos du consentement, prenez le cas du port du voile. Est-ce qu'il faut admettre le voile, même si certaines qui le portent disent qu'elles y consentent? Eh bien, je laisse la question ouverte. Hein. C'est très compliqué, parce que l'essence d'une personne, ça Lévinas l'a bien dit, c'est son regard et son visage. Hein. Donc, dissimuler un visage, est-ce que cela n'est pas, anthropologiquement parlant, quelque chose de problématique? Le consentement suffit-il à tout absoudre ici? Eh bien, je ne me prononce pas, mais je pose seulement la question. Thank you. Voilà. Alors, on voit aussi les limites du pélagianisme ou de l'optimisme pélagien, de Pélage, hein, dans le processus de décomposition d'un régime politique comme la démocratie. On voit dans la décomposition de la démocratie l'ironie d'un résultat non prévu qui montre bien les dangers du prométhéisme appliqué à la vie sociale. Lors d'une émission précédente consacrée à l'anthropologie de l'action, j'avais dit que toute action pouvait engendrer des effets pervers, c'est-à-dire être débordée par ses propres résultats. Un homme comme Montesquieu, par exemple, dans L'Esprit des lois, a bien montré qu'un régime politique se corrompt par glissement et altération de son principe. On franchit un point de discernement au-delà duquel survient à l'intérieur de chaque régime ou de chaque modèle le contraire de ce qui était initialement recherché, de ce qui le fondait. Hein. C'est un processus tragique conforme à ce que j'ai analysé, je le répète, dans le chapitre de mon livre consacré à l'anthropologie de l'action, et dont j'ai parlé justement dans des émissions antérieures. Alors, le principe de la démocratie, quel est-il? C'est l'intelligence du bien public, qui est aussi la perception de l'intérêt personnel bien compris. Et ça, on ne le sait pas assez, hein. La démocratie ne peut fonctionner que si l'on pratique la vertu, comme le dit Montesquieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parlerait du civisme, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui le civisme, le souci du bien commun qui doit passer avant l'intérêt particulier. En tout système politique ou social, si chacun ne pense qu'à soi, le résultat est un stupide gaspillage, comme il se voit, alors pas dans L'Esprit des lois, mais dans les lettres persanes, dans l'histoire des troglodytes. Les troglodytes, ce sont des barbares, hein. Certains habitent dans une région élevée, d'autres dans la plaine. Une année, ben, la plaine est inondée, justement, et donc les troglodytes de la région élevée gardent toutes les provisions pour eux, au lieu de les partager avec leurs frères. L'autre année, ça sera l'inverse, hein. Il y aura une catastrophe sur la montagne, et la plaine sera prospère. Et là, même chose, chacun garde les choses pour soi. Résultat, c'est un gaspillage énorme, il n'y a pas de solidarité. En effet, l'intelligence du bien public, je répète, c'est l'intérêt personnel bien compris. Hein. Regardez la solidarité générationnelle. Hein. On dit qu'il faut avoir des égards pour les personnes âgées. Bon, parce que soi-même, on deviendra âgé plus tard. Hein. Regardez le problème du financement des retraites, les retraites par répartition. Tout cela est basé sur la solidarité générationnelle. Ce sont lorsqu'on cotise pour la retraite, quand on travaille, hein, c'est un bienfait qu'on se donne à soi-même par avance. Donc il s'agit toujours d'un intérêt bien compris. Mais tout cela est en crise quand se développe le strict individualisme, comme aujourd'hui. Alors on parlera des retraites non plus par répartition, mais par capitalisation, c'est-à-dire chacun pour soi. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est même un très très mauvais calcul. Hein. Regardez ce que dit Montesquieu dans une formule éclatante pour signifier la catastrophe dont je parle. « Quand les sauvages veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre et mangent le fruit à terre. Telle est l'image du despotisme. » Évidemment, la pulsion me pousse à couper l'arbre pour attraper le fruit, mais je n'aurai pas de fruit après, la saison prochaine. Comme on dit aussi, il y a un proverbe qui dit « Pour boire le lait, il ne faut pas tuer la vache. » Hein, c'est évident, hein, c'est évident. Donc, c'est pas une affaire, si vous voulez, de compassion affective, c'est une affaire d'intelligence. C'est l'intérêt bien compris qui doit nous guider en démocratie. Par exemple, je ne dois pas marcher sur la pelouse, pelouse interdite, comme c'est écrit parfois, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que si tous marchaient sur la pelouse, il n'y aurait plus de pelouse. Voilà, hein, tout simplement. Cela s'adresse à la réflexion toute seule, à l'intelligence. Et réflexion et intelligence nous montrent qu'il y a quelque chose qui doit passer avant le strict égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le fait de ramener tout à soi, hein. L'intérêt de tous, donc l'intérêt de chacun, nécessite l'autorépression. Et la démocratie bien comprise est une représentation symbolique de cette autorépression ou cette autodiscipline. et autorépression et autodiscipline sont nécessaires. Cette répression est d'autant plus difficile, d'ailleurs en démocratie, qu'elle n'est pas imposée de l'extérieur, par la crainte par exemple, comme dans d'autres systèmes politiques. Les citoyens doivent s'imposer des règles à eux-mêmes. Et alors tout cela se brouille et s'obscurcit par oubli du principe moral, le civisme, la vertu de Montesquieu, qui sous-tend la construction démocratique. Alors tout s'inverse, ainsi que Montesquieu le montre dans l'Esprit des lois. Alors c'est livre 3, chapitre 3, je vous lis un extrait. Les désirs changent d'objet, ce qu'on aimait on ne l'aime plus, on était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître. Ce qui était maxime, on l'appelle rigueur. Ce qui était règle, on l'appelle gêne. Ce qui était attention, on l'appelle crainte. C'est la frugalité qui y est l'avarice et non pas le désir d'avoir. Autrefois, le bien des particuliers faisait le trésor public, mais pour lors, le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La République est une dépouille, et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. Donc licence, par rapport à liberté, licence est péjorative, c'est une liberté sans frein, sans limite. Tandis que la vraie liberté, c'est le fait de se poser des lois à soi-même, des obstacles en quelque sorte. Mais aujourd'hui, des tendances comme le consumérisme ou le clientélisme sont des tendances fatales à la démocratie. La vertu ou le civisme sont oubliés dans l'attitude du consommateur qui est seulement égocentrique. Le calcul mercantile, individuel, narcissique passe avant tout. Par exemple, le consommateur veut acheter les choses au moindre prix. Bon, eh bien, résultat, pour que les choses soient vendues au moindre prix, on va délocaliser, mettons, l'industrie qui fabrique ces choses. Finalement, on va créer du chômage chez les consommateurs eux-mêmes. Donc, quand le consommateur, ne réfléchit pas, acheter des choses à prix bradé, c'est creuser chez soi le lit du chômage, et finalement, à quoi cela sert, puisque à la fin, les gens n'ayant plus d'argent, ils n'achèteront plus ce qui est ainsi bradé. Donc, il y a le consommateur, d'accord, mais à côté, il y a le citoyen. Et quand le citoyen fait marcher sa raison, il s'aperçoit que parfois des intérêts sont contradictoires. L'intérêt du consommateur est contradictoire avec l'intérêt du citoyen. Finalement, ce mercantilisme se répand partout. Il y a par exemple le salon de l'étudiant où il s'agit de choisir non pas une production d'un service public, mais au contraire quelque chose qui, dans la logique du privé, nous donnera la meilleure rentabilité. Le palmarès des lycées, même chose. On est passé justement des services publics à une logique de la consommation privée. On est passé, comme j'ai dit, du citoyen au consommateur, et on est passé de l'usager au client, par exemple, de l'usager au client. Bon, normalement, je devrais être un usager des trains, du service postal, etc. Mais maintenant, eh bien, tout se résume à l'intérêt. Mais c'est un intérêt à très courte vue, très courte vue. Alors, autrefois, il y avait un militantisme qui était fondé ou basé sur des représentations symboliques fortes. Il y avait des conceptions du monde, la lutte des classes, par exemple, les idéologies, les philosophies, etc. Mais aujourd'hui, l'ancien militantisme est supplanté par l'adhésion par intérêt ou par l'engouement affectif. Les syndicats deviennent des groupes de pression corporatistes ou des lobbies, c'est le règne de l'intérêt. Et les partis politiques deviennent des clubs de supporters. C'est les engouements d'un jour qui prévalent. Aux États-Unis, les campagnes électorales ne regroupent pas des militants, soudés par un projet symbolique ou une idéologie fédératrice, mais des supporters, soutenant une vedette ou une star. Ils sont comme les fans d'un acteur de cinéma ou d'une équipe de foot. Tout cela est totalement irrationnel et aussi très superficiel, et on comprend que dans ce contexte, on puisse parler de marketing politique, d'image de marque des politiques et non pas de leur message réel. Alors quand Montesquieu nous dit que la République devient une dépouille, chacun ne pensant qu'à lui-même, eh bien je pense à ce fameux spoil system des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'un nouveau parti arrive au pouvoir, aussitôt, il va truster toutes les places, un spoil system, système des dépouilles. Finalement... C'est une affaire, si vous voulez, d'irréflexion, je crois. Il ne s'agit pas d'enfourcher les grands chevaux de la morale, ici, pas du tout, mais simplement de réfléchir. Voilà. Si on réfléchit, si on fait les liens entre les choses, si on est intelligent, ça veut faire les liens, interlegere, choisir entre, donc faire les liens. On voit, par exemple, je le répète, que l'intérêt du consommateur n'est pas l'intérêt du citoyen. À ce moment-là, on peut progresser. Donc, ne faisons pas de morale, simplement faisons appel à la réflexion. Eh bien, je vais vous laisser sur ces belles paroles pour que vous puissiez y méditer la semaine qui vient. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et nous reprendrons cette réflexion sur la psychologie politique et les pathologies de la démocratie. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.